RCF. Namur, quand c'était la guerre. Recueil de témoignages sur Namur et les Namurois durant la Seconde Guerre mondiale. Une émission de l'ASBL Namur Initiative Citoyenne, soutenue par la province de Namur dans le cadre de l'appel à projet Territoire de mémoire, par la ville de Namur et par RCF Sud-Belgique. Bonjour à toutes et à tous, ici Richard Dessart de l'ASBL Namur Initiative Citoyenne. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Namur quand c'était la guerre. Et aujourd'hui, on va partir à la rencontre de Jean-Marie Sony. Alors monsieur Sony, il n'a pas connu directement la guerre, il est né en octobre 48. Et c'est justement ça qui nous intéresse. Alors vous allez vous demander de quoi je parle. Mais non, ce qui est intéressant avec l'histoire de Monsieur Sony, c'est qu'il est né à Bonn. Pourtant, sa famille est d'origine jamboise. Donc on voit que sa naissance a un lien direct avec la guerre. C'est des histoires de vie, c'est aussi des choses qui se sont passées, qui sont plus méconnues. Comment se fait-il qu'il est né à Bonn ? Eh bien, son papa était sergent et donc son père travailler là-bas en Allemagne, et c'est comme ça que sa famille a suivi et que Jean-Marie est né là aussi. Donc ici, il va nous parler un peu de l'histoire de sa famille et aussi de l'ambiance qu'il y avait à Bonn après la guerre. Vous verrez, c'était pas joyeux non plus. Voilà, ça nous ouvre encore de nouveaux horizons, des nouvelles histoires, des nouveaux destins qui ont été chamboulés par la guerre. Je trouve que c'est intéressant, c'est des histoires auxquelles je ne m'attendais pas à être confronté en lançant cette récolte de témoignages. Donc je suis vraiment content de pouvoir avoir ce genre d'histoire. Et si vous aussi, vous avez des histoires, qu'elles soient très spéciales comme celle-ci, ou plus classique, on va dire. Il faut vraiment pas hésiter à nous téléphoner, à nous contacter, parce qu'il reste vraiment 2 semaines où on va encore prendre les demandes de témoignages. Donc après ça, au mois de juin, on va vraiment clôturer la récolte, donc il faut vraiment se dépêcher pour nous contacter. Pour ça, vous pouvez le faire sur notre site internet, www.namurenguerre.be. C'est d'ailleurs sur ce site-là où vous allez retrouver tous les podcasts aussi. Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse info@namurienc.be, info@namurienc.be. Vous pouvez nous contacter par téléphone au 0474-114-909, 0474-114-909, ou nous envoyer un petit courrier par écrit à ASBL Namur Initiative Citoyenne, rue Moncrabeau 6, à 5000 Namur. Je vous remercie et je vous laisse donc en compagnie de Jean-Marie Sony.
Mon père était sergent à l'armée, et alors il a fait la guerre, bien sûr. En 41, il était prisonnier, il est allé en Allemagne dans un camp, là-bas il est resté pendant un certain temps. Puis alors il a trouvé une solution, il a fait la grève de la faim. Et alors pour finir, il ne pesait que 36 kilos, la Croix-Rouge qui était là avec les contrôles a décidé de le faire revenir en Belgique. Donc il est allé à Bruxelles, à Ixen. Et là-bas, on l'a soigné, voilà. Donc il est revenu ici à Bruxelles. Mais là encore, il essayait, parce qu'il était encore sous le contrôle des Allemands. Et là, il a sauté par la fenêtre pour partir. Et là, il s'est cassé une jambe. Enfin, il y avait quelqu'un qui l'attendait en bas, qui l'a aidé à partir, quoi. Hein. Bon, maintenant, alors ça a été complètement, il a été guéri. Et puis il s'est mis dans la résistance, avec le groupe Marshall. Et alors, donc il a été d'abord dans la résistance. Et alors, avec les hommes où il était, ils ont été, faire sauter certains ponts de Namur, notamment le pont de Fralière. Là, ils l'ont fait sauter. Voilà, donc c'est une grande partie de cette activité quoi, dans la résistance. Et alors, à un moment donné, on lui a confié la tâche de surveiller des familles à Namur pour la collaboration. Parce qu'il y avait des collaborateurs dans des familles à Namur. C'était des familles bourgeoises en plus. Hein. Donc il a commencé à les surveiller. Donc il devait noter tout complètement. Et alors à un moment donné, il faisait un rapport, il le remettait à ses supérieurs, quoi, voilà. Donc il a fait de l'espionnage, quoi, si vous voulez.
Et donc, votre papa, il habitait où alors?
Mais c'était Jean Bois. Hein. Donc, mais seulement, il était caserné en Allemagne, et puis il est revenu, puis il est revenu à Namur, dans le groupe Marshall.
Et à Jean, il habitait où?
Dans la rue Schlemmer, quoi. Donc il est revenu ici, donc il s'occupait de Namur, et alors aider aussi les gens en besoin. C'est un peu le rôle, en tant que de la résistance, d'aider les gens en besoin, quoi. De les aider, quoi, à vivre normalement. Alors finalement, la guerre s'est passée. Hein, il a terminé, donc il a terminé la guerre. Et alors moi, en 48, je suis né. Et alors à ce moment-là, les militaires belges pouvaient revenir en Allemagne et on leur conduisait des beaux immeubles avec des appartements. Et après, donc ils revenaient. Les Allemands avaient été prisonniers, bien sûr. Ils revenaient en Allemagne avec sa famille, et mon père était avec sa famille. C'est pour ça que je suis né, moi, en 48, à Bonn. Puis alors, on est allé vivre pendant une dizaine d'années à Düren, en Allemagne, dans un bel appartement, quoi. Moi, finalement, je garde des bons souvenirs de l'Allemagne. Hein, et alors, comment dire, alors, je me suis rendu compte que les habitants là-bas, les Allemands, avec la guerre, ils n'y pouvaient rien non plus. Hein. Ils étaient innocents. Mais alors on s'est rendu compte que moi, de temps en temps, j'allais avec ma mère faire les courses là-bas, dans un magasin à Düren. On devait traverser une vieille caserne qui avait été bombardée. Et il y avait des Allemands qui habitaient dans les caves, dans les débris, mais dans les caves carrément. Et une fois, il y a un petit garçon qui est venu nous rejoindre sur la route. Et il est venu demander à ma maman, qui connaissait bien l'allemand, pouvoir se faire apporter du café, du lait et des produits pour un bébé qu'ils ont, donc des boîtes de consommation. Ma mère l'a fait, donc finalement on s'est rendu compte que là, il y avait des gens qui sont dans des grands besoins, des Allemands. Hein. Et alors, bon, j'ai vécu là-bas pendant une dizaine d'années, j'ai connu un peu l'allemand, mais alors maintenant, avec les années qui passent, je ne sais plus vraiment le parler, mais là, je le comprends encore. Voilà, donc c'est un peu mon histoire, mais aussi l'histoire de ma famille, quoi.
Ist der Weltuntergang. Wir leben nicht mehr lang, wir leben nicht mehr lang. Am 30. Mai ist der Weltuntergang. Wir leben nicht mehr lang. Doch keiner weiß, in welchem Jahr. Und das ist wunderbar. Wir sind vielleicht noch lange hier. Und darauf blinken wir. Ist Gang. Wir leben nicht mehr lang, wir leben nicht mehr lang. Am 30. Mai ist der Weltuntergang. Wir leben nicht mehr lang. Doch keiner weiß, in welchem Jahr. Und das ist wunderbar. Wir sind vielleicht noch lange hier. Und darauf winken wir.
Et votre mère, elle est originaire d'où alors?
De Genève.
Donc ils se sont rencontrés ici?
Oui, mais oui. Oui, bon, ma mère en Allemagne s'occupait des enfants et tout ça. Et j'ai de très bons souvenirs de ma mère parce qu'elle était très douce, une mère très douce. Et alors en plus, pour passer mon temps, il m'avait, en Allemagne, il m'avait offert un chow-chow, les gros chiens, là, plein de poils. Là. Et donc, pendant ma petite enfance, j'ai eu un chien à côté. Et il se mettait tout à côté de moi. Donc il s'occupait à côté. Quand je dormais, il était toujours là. Hein. Et on était toujours ensemble. Hein. Et alors, mais seulement, mon papa allait à la caserne tous les jours. Hein. Et alors, le vendredi, c'était le jour que le milicien, à cette époque-là, devait revenir en Belgique. Hein, le week-end, il revenait. Et alors, mais seulement, il arrivait là. Alors, le chien partait, il avait un petit poulet, tout seul sur le trottoir. Il allait à la caserne. Et là, il savait exactement où il va aller. Il allait au messe des sous-officiers. Il y avait les soldats qui étaient là en train de boire. Et il lui faisait boire de la bière. C'est véridique, je vous dis.
Il faisait boire de la bière au chien ?
Oui, oui, boire de la bière au chien. Et alors on le voyait dans le revenant, parce qu'on savait plus ou moins l'heure pour le revenir, on voyait sur le trottoir qu'il allait vraiment dans tous les sens. Il était saoul, hein. Enfin, c'était pas méchant quand même. Enfin, il donnait à boire à mon chien. Enfin, j'ai gardé de très bons souvenirs de...
Et ça, c'était à Bonn, alors ?
C'était en Allemagne, à Düren.
Ah oui, à Düren, ok. Düren. Vous êtes né à Bonn, mais après vous avez habité à Düren.
On a été à Düren.
Parce qu'il était soldat, ça ?
Parce qu'il était, oui, il était soldat, donc ils ont été, avec la famille, ils ont été, mais j'avais trois frères et une sœur, moi, hein, donc c'était une famille nombreuse. Hein.
Vous êtes l'aîné ?
Non, j'étais le troisième.
D'accord.
Alors il y avait le cadet, moi, et alors le moyen, enfin, des quatre frères, moi, plus une sœur, donc voilà.
Et vos parents, ils se connaissaient déjà avant la guerre ?
Ah ben oui, bien sûr.
Ah voilà,
oui,
ok.
Parce qu'ils sont nés en 19 tous les deux. Donc, allez, 20 ans après, j'étais en 39, un peu avant la guerre, quoi. Ils ont fait connaissance. Hein.
Ah oui, voilà. Est-ce que vous savez comment ça s'est passé, alors, pour votre maman c'était sans doute compliqué pour elle quand son mari était emprisonné.
Dans la guerre?
Oui.
Alors là, c'est très difficile pour elle, parce qu'on le voyait rarement. Il venait rarement, il revenait rarement à la maison, quoi. Il était souvent parti. Donc pour elle, ça a été des années très dures, hein, pendant la guerre. Hein. Mmh. En plus, elle s'occupait de ma sœur aînée, qui a eu la poliomyélite en plus. Donc ça a été un calvaire pour ma mère. Quoi. Bon, elle s'occupait de la fille qui avait la polio. Elle voyait rarement son mari, donc voilà. Quoi. Bon, ça a été des années très dures pour elle. Enfin, elle a tenu le coup. Quoi.
Et elle était au courant qu'il avait fait une grève de la faim là-bas?
Ah oui, il était au courant, ouais. Ah oui, quand il est revenu en Belgique, il a lui a tout raconté. Hein.
Mais pendant que lui était là, il lui avait dit par courrier ou pas?
Ah non, hein. Non. Ah non. Lui, il a fait la grève de la faim et il ne pesait que 38 kilos. Et c'est la Croix-Rouge qui était sur place, qui faisait des contrôles à cette époque-là dans les prisons, dans les camps, et qui ont demandé, comme il était très maigre, pour le renvoyer en Belgique. Voilà.
Ça n'a pas eu de conséquences sur sa santé par la suite?
Bon, non, il a retrouvé la santé. À part qu'il a cassé sa jambe en l'hôpital à Bruxelles, il a sauté par la fenêtre, comme bon, deux étages, comme n'empêche. Enfin, ça c'est l'histoire de mon papa, de la famille en plus, parce que c'était une famille nombreuse, donc on a eu, ce qui est bizarre, on a eu deux périodes, hein. La période en Allemagne et la période en Belgique. Et donc finalement, c'est deux périodes bien particulières, comme vous comprenez, je veux dire. Hein. Moi j'ai connu l'Allemagne, hein, je dû m'habituer de l'Allemagne, puis je suis revenu en Belgique, quoi.
Gilles, comment est-ce qu'il a été fait prisonnier, vous savez ça ou pas?
En combattant. Mmh. Donc il était sergent en armée, il y avait les tranchées, enfin il y avait encore des tranchées, tout ça. Donc ils ont été prisonniers, mais tout son peloton a été prisonnier en même temps, quoi. Donc voilà, bon. Comme la plupart des militaires à la guerre.
Hein. Oui, c'est ça. Au début de la guerre, donc.
Et c'était en 41.
En 41 qu'il a été fait prisonnier?
En 41. Il était prisonnier en 41, fin 41. Et puis alors, il est resté là-bas 6 mois, il a fait la grippe de la faim, et en 43, il est revenu. Alors là, bon, a commencé sa vie de résistant à l'armée, enfin, peloton de résistance, de coupe Marshall. Alors il a eu toutes ces activités là pour faire sauter les ponts, faire de l'espionnage, tout ça, comme bon, voilà.
Et donc c'est à ce moment-là que vous dites qu'il n'avait pas beaucoup de contact avec votre maman.
Il ne pouvait pas. En tant que, ma mère ne pouvait pas savoir qu'il était parti de la résistance. Mmh. C'était très secret d'être dans la résistance. Finalement, elle avait très peu contact avec lui. Elle se demandait toujours ce qu'il faisait, hein, parce qu'il partait, puis il revenait en fin de journée, elle ne disait rien de tout sur ce qu'il faisait, quoi. Hein. Bon, c'était assez secret, quoi. Hein.
Mais ils vivaient quand même ensemble?
Oui, hein. Bah oui, il revenait dans sa maison, quoi. Hein.
À Jambes, alors?
À Jambes. Oui, il revenait dans sa maison à Jambes. Mais là, bon, ça a été une drôle de période pour ma mère, parce que lui, il faisait partie de la résistance, il faisait aussi des boulots très... très secret, donc il ne pouvait pas se vanter qu'il faisait sauter les ponts, quoi. Mmh. Hein? Enfin, avec ses soldats, quoi. Hein? Non, c'était un peu très spécial, quand même, ce qu'il a vécu. C'est pour ça que, finalement, je crois que j'ai pris la peine donc, de vous en parler, parce que, d'après ce que je sais sur lui, je sais qu'il a eu une présence militaire très, très importante en ce qui me concerne, mais lui aussi. Et aussi pour l'armée, parce que, finalement, il a compris pas mal de choses de l'armée, quoi. Bon, à l'armée, donc, quand il est revenu en Belgique, ils sont fait décorer. Hein. Maintenant, il avait des amis hein, dans l'armée. Hein. Il y en a qui sont passés comme officiers, et lui, on l'a laissé comme sous-officier. Alors, il était fâché, parce qu'il ne comprenait pas pourquoi ses amis étaient passés comme officier, et lui, sous-officier. Donc, il y a toujours un peu ce dilemme entre les officiers et les sous-officiers. Mon père a terminé comme adjudant-chef, et voilà comment il s'y allait comme génie. Donc, et qu'il a terminé son boulot, quoi.
Ça a peut-être créé aussi des tensions à la fin de la guerre, tout ça.
Ben oui, c'était une drôle de période quand même. Parce qu'il a vécu... Je me suis rendu compte qu'il a vécu comme des drôles très durs pour lui. Il a eu des moments très durs pour lui. Hein, parce qu'il a vécu, bon, des moments de tension et tout ça dans la résistance. Toujours faire attention, toujours garder le secret. Hein, parce que c'était leur assurance quoi, de survie quoi, hein. Et alors toujours être toujours dans un demi-monde quoi, hein, le monde de la résistance et le monde civil quoi, si je peux dire. Il a toujours eu ce dilemme entre les deux. Enfin bon, maintenant je me rends compte que à son enterrement, cet agent ici en Valette, il est mort en 82 je crois. Enfin, soit. Et alors il y avait beaucoup de gens dans l'église, hein. Et il a été vraiment, il y a des gens qui sont venus, des collègues hein, qui sont devenus militaires, qui sont venus parler vraiment de son rôle. Donc ils ont fait comprendre que dans l'église même, hein, notamment, comme quoi il avait été très important sur les actions militaires à Jambes, dans Namur, en gros. Hein. Voilà.
Dort wollen wir uns wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. Unsere beiden Schatten sahen wie ein aus, dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang, alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marlene, mit dir, Lili Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund, hebt sich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marleen.
Et alors, vous m'avez dit qu'il avait fait un peu d'espionnage aussi.
Il surveillait des collaborateurs, ceux qu'on soupçonnait de collaborer, des grosses familles bourgeoises de Namur. On s'est rendu compte, lui s'en est rendu compte, qu'il y avait des choses bizarres qui se passaient. Et dans les côtés entreprises aussi, les commerçants et tout ça, il y en a beaucoup qui collaboraient avec les Allemands. J'ai mon propre parrain, donc un oncle qui était parrain, il paraît, et finalement, lui, pendant la guerre, il était entrepreneur d'avoirie, et alors il a travaillé pour les Allemands, et il a fait fortune. Donc finalement, à la guerre, à la fin de la guerre, il s'est acheté les grosses briques, la grosse voiture américaine, et il a commencé à montrer son argent, quoi. Mais on s'était mal vu, très mal vu, parce que lui, il a fait sa fortune avec les Allemands. C'est vraiment de collaborer. Mais pour nous, c'était difficile parce qu'on ne pouvait pas le dénoncer non plus.
Ouais. Mais est-ce que c'est collaborer ou profiter de la situation?
Voilà, à mon avis, il faut le voir comme ça. Il profitait de la situation, c'est un entrepreneur de travaux publics, quoi. Et alors il faisait les routes et tout le bazar. C'est pour ça que les Allemands étaient intéressés par lui, parce qu'il s'occupait de retaper les routes, tout ça pour les Allemands, quoi. Hein. Donc, à mon avis, il faut le voir aussi. Comme quoi, il est intéressé, mais pas uniquement pour la collaboration. C'est une entreprise, Et lui, en tant qu'entrepreneur, il fallait que je trouve du travail. Finalement, c'était la seule façon d'avoir du travail pendant la guerre, en travaillant pour les Allemands.
Mais ce qui était mal vu, c'est surtout le fait qu'après,
Mais il a été considéré comme collaborateur, mais soupçonné comme collaborateur. Mais on n'a jamais vraiment prouvé exactement qu'il avait eu vraiment des actes de collaboration, parce qu'il faut tous les documents aussi pour le... C'est vrai, parfois il y en a qui ont des ordres de marche, si vous voulez, en collaboration, donc on peut trouver vraiment des preuves écrites, concrètes, mais on n'a pas trouvé ce genre de choses, donc voilà.
Il n'a pas eu de représailles par la suite?
Non. Ce qui était mal vu, c'est qu'on le voyait avec sa grosse voiture américaine, juste un peu dans les années 50, et qui roulait dans un mur avec ça, mais c'était la grosse bagnole décapotable en plus.
Il était jambon aussi?
Non, lui il habitait en haie.
Ah oui.
Mais il travaillait dans un mur, quoi. Ah. Oui. Ben, voilà.
Donc c'était surtout, quand il faisait de l'espionnage, votre papa, c'était surtout tout ce qui était collaboration économique, on va dire.
Il y avait toujours un intérêt, soit aussi un intérêt économique, mais aussi politique. Parce que ça, il faut tenir compte aussi, parce qu'à cette époque-là, il y avait deux graines à Namur, qui étaient vraiment comme les chemises noires. Donc c'était toujours un peu ambigu de savoir comment il faisait son espionnage. Est-ce que du côté de guerre, enfin, du côté politique, si je peux dire, ou alors le côté économique, comme mon parrain qui s'occupait de réparer les routes. Donc il y a beaucoup de gens qui ont travaillé comme ça, des entreprises, des commerçants, qui trouvaient un moyen de liquider leur stock, c'est un bazar, quoi. Hein. Donc finalement, ça a été très dur pour tout le monde. Hein. Moi, finalement, je n'ai pas connu la guerre, mais d'après ce qu'on a dit, il y a eu des bombardements. Ça, pour moi, je ne me rends pas compte. Et après, c'était terrible. Hein.
Que souhaiteriez-vous que les jeunes retiennent de cette période qu'a été la Seconde Guerre mondiale?
Les guerres ne devraient pas exister, je crois. Ça ne devrait pas exister, c'est une horreur. En soi, c'est une horreur. C'est vraiment le combat entre hommes, entre eux. Et finalement, il y a eu beaucoup de tués. Allez, quand on voit la Shoah du côté des Juifs, des millions de Juifs qui sont faits éliminé en Allemagne. C'est épouvantable, ce genre de truc. Donc moi, ce que je dis une chose, les guerres, bon, je vais le dire grossièrement, c'est une merde. Hein. C'est vrai, il n'y a jamais personne qui garde un bon souvenir de la guerre, hein. À part les Allemands peut-être, et encore. Mais non, moi je dis, ça n'aurait jamais existé, moi, la guerre. Malheureusement, on revoit par période qu'elle revient, quoi. Il y a encore la guerre maintenant, hein. Maintenant, on a encore une autre forme de guerre contre le coronavirus, quoi. C'est ça l'ennemi, hein. C'est vrai, et moi c'est mondial. Hein.
De manière générale, quel message souhaiteriez-vous adresser aux jeunes?
C'est l'espoir. Toujours garder l'espoir, voir vraiment le côté positif. Les gens qui ont remis sur vos pieds certaines choses vraiment en travaillant, ils ont mis pied beaucoup de choses, et redonner confiance aux gens, ça c'est important, et c'est surtout de l'espoir. Hein. Moi je crois que même maintenant, on doit garder de l'espoir. C'est toujours comme ça, mais moi je conseille aux jeunes, finalement, de garder que, malgré tout ça, maintenant ce que je veux dire, ça m'a peut-être malheureux, mais les guerres c'est un genre de leçon pour l'avenir. Donc on voit peut-être l'avenir différemment. Quoi. Malheureusement, ben, elle revient toujours de temps en temps, quoi. Mais pour garder l'œil de l'espoir.
Et voilà donc pour le témoignage de Jean-Marie Sony, qui est né en 1948, mais qui est né à Bonn. C'est tout ce qui faisait la particularité de son témoignage, alors qu'il était d'origine jamboise, hein, bien sûr. Avant, on remercie aussi encore une fois les Chardonnerets et Charlotte, l'ergothérapeute, qui a organisé tous ces derniers témoignages, en tout cas ceux qu'on va entendre. Celui qu'on a entendu la semaine dernière, celui-ci, et ce qu'on va entendre les semaines suivantes. Merci à elle d'avoir organisé tout ça. Merci aussi aux résidents qui étaient vraiment très très enthousiastes. Elle nous a dit qu'elle était très étonnée du nombre de résidents qui voulaient participer, donc on les remercie très fort. Et donc la semaine prochaine, ben, c'est une résidente des Chardonnerets qu'on va écouter, et c'est Marie-Louise Trousse, qui, elle, est née bien plus avant, qui est née en 1927, qui avait donc 14 ans au début de la guerre, et qui va aussi nous raconter pas mal d'histoires très intéressantes. Mais pour ça, on se donne donc rendez-vous la semaine prochaine. Si vous aussi, vous souhaitez témoigner, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez le faire encore les deux semaines qui suivent, hein. Après on va clôturer tous les témoignages. Vous pouvez, pour nous contacter, soit le faire via le site internet que nous avons créé, www.namurenguerre.be. Vous pouvez le faire par mail à l'adresse info@namurienc.be. Vous pouvez aussi nous contacter par téléphone au 0474-114-909, 0474-114-909, ou encore nous envoyer un courrier à ASBL Namur Initiative Citoyenne, rue Moncrabeau 6, à 5000 Namur. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.